L'espérance ne trompe pas, ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Quand on parle de l'espérance, comment ne pas évoquer la Vierge Marie, étoile de l'espérance, Marie étoile de l'espérance, comme dit le pape Benoît XVI au terme de son encyclique « Sauvé dans l'espérance ». Et là, en vous partageant ce que je vais vous partager, je pense à un prédicateur de retraite. C'était plusieurs années déjà, quelqu'un qui m'avait précédé comme supérieur du séminaire d'Issy-les-Moulineaux, puis c'est un prêtre du diocèse de Paris. Alors au début, il a dit « J'ai à vous parler alors que j'aimerais tant vous entendre ». Eh bien, quand on parle de la Vierge Marie, vous, hein, avec ce qui vous caractérise, là, hein, ce charisme qui est le vôtre, ce dont vous vivez jour après jour, ben, vous avez plein de choses à dire. Et écoutez, on le partage ici autrement. J'accomplis mon ministère, mais je ne peux l'accomplir qu'en lien étroit avec vous, tout ce que vous vivez. Alors, je vous propose simplement, là, pour entrer dans cet accueil, quoi, de cette révélation là, de l'espérance en la Vierge Marie, en nous remettant à son intercession, de tout simplement, peut-être, chanter. Il y a tellement de chants qui disent cette lumière, cette espérance. Vierge de lumière, marche auprès de nous, sois notre espoir et notre joie, montre-nous le Sauveur. Vierge de lumière, marche auprès de nous, sois notre espoir et notre joie, donne-nous le Sauveur. Je lis ce passage de la finale de cette lettre encyclique du pape Benoît XVI, Sauvé dans l'espérance, quand il s'adresse à la Vierge Marie. Sainte Marie, tu appartenais aux âmes humbles et grandes en Israël, qui, comme Siméon, attendaient la consolation d'Israël, et qui, comme Anne, attendaient la délivrance de Jérusalem. Tu vivais en contact intime avec les saintes Écritures qui parlaient de l'espérance, de la promesse faite à Abraham et à sa descendance. Et ensuite, je vais un peu plus loin dans cette lettre du pape, quand il évoque Marie au pied de la croix. L'épée de douleur transperça ton cœur. L'espérance était-elle morte? Le monde était-il resté définitivement sans lumière? La vie sans but? À cette heure, probablement, au plus intime de toi-même, tu auras écouté de nouveau la parole de l'ange, par laquelle il avait répondu à ta crainte au moment de l'Annonciation. Sois sans crainte, Marie. Que de fois le Seigneur, ton Fils, avait dit la même chose à ses disciples, n'ayez pas peur. Dans la nuit du Golgotha, tu as entendu de nouveau cette parole. À ses disciples, avant l'heure de la trahison, il avait dit « Ayez confiance, moi je suis vainqueur du monde. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. » Sois sans crainte, Marie. À l'heure de Nazareth, l'ange t'avait dit aussi « Son règne n'aura pas de fin. » Il était peut-être fini avant de commencer. Non, non. Près de la croix, sur la base de la parole même de Jésus, tu étais devenue la mère des croyants. Dans cette foi qui était aussi dans l'obscurité du samedi saint, certitude de l'espérance, tu es allée à la rencontre du matin de Pâques. La joie de la résurrection a touché ton cœur et t'a uni de manière nouvelle aux disciples, appelés à devenir la famille de Jésus par la foi. Ainsi, tu fus au milieu de la communauté des croyants qui, les jours après l'Ascension, priaient d'un seul cœur pour le don du Saint-Esprit et qui le reçurent au jour de la Pentecôte. Le règne de Jésus était différent de ce que les hommes avaient pu imaginer. Ce règne commençait à 7 heures et n'aurait jamais de fin. Ainsi, tu demeures au milieu des disciples comme leur mère, comme mère de l'espérance. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers son règne. Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route. Reprenons, Vierge de lumière. Vierge de lumière, marche auprès de nous. Sois notre espoir et notre joie. Donne-nous le Sauveur. Simplement pour introduire à la méditation, vous connaissez par cœur ces passages. Évangile de Jean, 2 fois question de la Vierge Marie, Cana, la croix. Et puis, quand on parle, dans certaines spiritualités, celle à laquelle j'appartiens, on parle beaucoup de la vie intérieure de Jésus, de Marie. Ben, vie intérieure de Marie, elle se dit dans le Magnificat. Et personnellement, je ne peux que faire un rapprochement entre le Magnificat et puis Éphésiens, chapitre 3, verset 14-20. Vous comprendrez pourquoi. Alors, quand on parle de la Vierge Marie, étoile de l'espérance, bien, on se dit aussi, étoile de l'espérance, bon, participe pas mal de rencontres œcuméniques, hein. Je vois aussi dans un mouvement, enfin, mouvement sève, voilà, où j'ai été invité pendant plusieurs années, puis j'ai dit je peux pas faire trop de choses maintenant. Et il y a des frères et sœurs protestants là. Alors évidemment, hein, parler de la Vierge Marie. Alors je me suis dit, dans l'encyclique là, sur le cœur de Jésus, il nous a aimés. Puis vous savez, il y a des communautés aussi ou des congrégations, c'est à la fois le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Bon. Je me suis dit, mais où le pape va-t-il parler de Marie, enfin? Ah, puis j'ai trouvé. C'est une merveille. Parce qu'il y a vraiment tout ce qui est dit de la Vierge Marie, là, on peut le dire de façon œcuménique. Et pourtant, ça n'enlève rien à notre foi chrétienne, catholique, là. Numéro 176. Au sein de l'Église. La médiation de Marie, mère qui intercède, ne peut être comprise que comme une participation à l'unique source qu'est la médiation du Christ lui-même, l'unique Rédempteur. Ce rôle subordonné de Marie, l'Église le professe sans hésitation. La dévotion au cœur de Marie n'entend pas affaiblir l'adoration unique due au cœur du Christ, mais la stimuler. Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque et ne diminue en rien l'unique médiation du Christ. Il en manifeste au contraire la vertu. Grâce à l'immense source qui jaillit du cœur ouvert du Christ, l'Église, avec Marie et tous les croyants, deviennent de diverses manières des canaux d'eau vive. Le Christ déploie de cette manière sa gloire dans notre petitesse. Tout est dit. La justesse. Vous savez, quelquefois, c'est vrai, il y a des façons de parler de Marie médiatrice. Puis il faut respecter la piété populaire, hein, pour beaucoup de personnes. Voilà, c'est des mots. On n'est pas là pour rectifier toujours le vocabulaire, hein. Mais on est là quand même pour dire, c'est encore plus extraordinaire peut-être que ce qu'on voudrait dire Marie à sa juste place. Voilà. Mais à toute sa place. Et voilà. Marie, dans l'évangile de Jean, Cana, le calvaire. 176. Numéro 176. Dans l'encyclique, il nous a aimés. Voilà. Alors, c'est là en lien avec ce qui était dit que je lis l'évangile des noces de Cana. Je vais le lire. Il y aurait simplement quelques mots, comme je le ferai pour Marie au pied de la croix. Et puis après, je laisserai retentir en nous ces mots qu'on trouve surtout dans l'évangile de Luc. Hein. Marie conservait tous ces événements dans son cœur. Voilà. Méditer, conserver dans son cœur tous ces événements. Cana. C'est le premier signe de Jésus. Et voici quel fut le témoignage. Voilà. Le troisième jour, il eut une noce à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Non, pas de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au servant, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au servant, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des servants qui avaient puisé l'eau. Aussi il s'adressa au marié et lui dit, « Mais tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. » Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire à ses disciples. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y restèrent que peu de jours. Cana. Ce qui est frappant tout d'abord, c'est que à ces noces, à cette invitation, Marie est nommée la première. La mère de Jésus était là, comme si vraiment c'était d'abord elle qui était l'invitée, puis et Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Elle est là, comme au premier rang. Et à la fin, remarquez ceci. Après ce signe donné à Cana, Jésus descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. C'est Jésus qui part le premier, et puis Marie et les disciples. Marie, mère de Jésus, Marie, disciple. D'autre part, premier signe. J'ai un confrère, là, mon frère sulpicien, qui est du Togo, que j'ai eu, là, pendant le stage des formations des futurs sulpiciens. C'était au Canada, là, on a passé 6 mois ensemble. Et il fait sa thèse sur Cana. Que veut dire ce premier des signes ? Est-ce que c'est simplement le premier par ordre chronologique ? Et il s'efforce de montrer comment ce signe, je vais employer un mot savant, est l'archétype. C'est-à-dire que là, dans ce qui s'est passé à Cana, ça dit le sens de tous les miracles que Jésus accomplira. besoin des hommes, détresse. Et puis, voilà, ce signe posé, ce signe donné est rattaché à l'heure de Jésus. Parce qu'en effet, Marie, elle est là, vous savez, c'est comme quand on vit le temps de l'Avent. Et qu'on nous fait vivre toutes les étapes du peuple de Dieu avec une attente, enfin, mais quand est-ce qu'il se manifestera, la promesse faite à Abraham, mais par qui? Et puis ils sont là, les Anaouim, les pauvres, ceux qui attendent. Et Marie, là, Joseph, bon, Zacharie, Élisabeth, Anne, Siméon font partie de ces pauvres. C'est comme si cette attente, ce désir arrivait à son paroxysme. Mais enfin, mais depuis qu'on attend, mais quand est-ce? D'où, si vous voulez, bon, les noces, symbole de l'alliance, ben l'accomplissement de l'alliance. Ben voilà, on s'est épuisé, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus de vin. Ça se passe, là, au moment des noces, veut dire quelque chose. L'alliance de Dieu avec son peuple. Enfin, tous ces chants, le cantique des cantiques qui disent, voilà, cette fête, cette rencontre de Dieu avec son peuple, comme vraiment une alliance, quoi. Une fête, la fête qui s'accomplit. Que dit Marie? Elle dit la soif. Elle dit la soif de tous ces gens qui sont là. Ah oui, c'est la soif de... Que ce soit vraiment la fête, que ce soit pas simplement la joie d'un moment. Ils n'ont pas de vin. C'est tout ce qu'elle dit. Elle dit pas fait un miracle. Elle dit, ils n'ont pas de vin. Oui, il y a toute la confiance hein, qui est donnée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Ah ben vous savez, c'est toujours pareil, surtout quand on veut accrocher, on dit un peu n'importe quoi, et puis ça fait choc, hein. De quoi tu t'occupes? Non, c'est totalement faux. Et même c'est méprisant. C'est dire, mais est-ce que vraiment, tu perçois ce que tu me demandes? Marie, est-ce qu'elle ne serait offusquée? Elle qui a posé des questions à l'Annonciation. À l'Annonciation, Marie n'a pas douté. Mais elle a dit, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Et là, c'est pareil. Mon heure n'est pas encore venue, et Marie va savoir ce que c'est aussi que l'attente de cette heure. Hein. C'est quand même toujours aussi des choses qu'il faut entendre jusqu'au bout. Quelquefois, c'est déjà, c'est le confirmant. Là. Un jour, je vois, là, c'était avec, bon, ils avaient 13, 14 ans, vous savez, la confirmation maintenant, c'est un peu aussi à tous les âges. On essaie de faire en sorte que, il y en a qui lèvent le doigt et qui me disent, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Mais Jésus, mais tout ce temps qu'il a passé là, à Nazareth, et c'était l'urgence de la mission quand même. Il le disait avec ses mots, mais pourquoi restait-il là à la maison alors qu'il y avait tant de choses à faire? Et je dis, mais tu vois, déjà là, c'était sa mission. Il n'a pas fait semblant d'être l'un d'entre nous. Il a été vraiment là. Jésus de Nazareth, son père. Son père se dit que n'est-il pas le charpentier? L'heure. Alors, ben voilà. Et ça va être la démesure. Mon heure n'est pas. Et sa mère dit au servant, elle dit pas, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Elle aurait dit, mais renvoyez tout le monde, parce que ben voilà, il faut leur dire, écoutez, ben on regrette, mais c'est épuisé, non? Quoi qu'ils vous disent. Faites-le. Et qu'il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. 6 jarres, on lit en note, environ 40 litres par mesure. Il s'agit donc d'une quantité considérable. Considérable. Ah ben ils remplissent. Hein. Puis alors, pas à moitié, hein, mais jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Puis il dit, mais maintenant, dit Jésus, puisez, portez au maître du repas. Ils lui emportèrent, il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des servants qui avaient puisé l'eau, qui disaient, ben oui, enfin, voilà. Tout le monde, là, le maître du festin, quoi, dit, il s'adresse au marié, il lui dit, tout le monde offre d'abord le bon vin, puis lorsque les convives sont gris, le moins bon. Il y a une forme d'humour aussi, hein, dans l'évangile. Hein. Et toi, tu as gardé le bon jusqu'à maintenant. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Marie. Eh bien, il y a trois images, si vous voulez, un peu là. On focalise ça sur Marie. Ces images, où, voilà, c'est ce regard sur Marie, disons, ces trois regards, eh bien, je les puise, moi, dans le Concile Vatican II. Vous savez, c'est Lumen Gentium, la constitution sur l'Église, hein, au chapitre 8. Vous savez ce qui s'est passé au Concile Vatican II? C'est qu'il y avait beaucoup d'évêques qui demandaient qu'il y ait une constitution particulière sur Marie. Il y en avait une, bon, l'Église qui était prévue, la liturgie aussi, hein. Et puis, l'Église dans le monde de ce temps, la révélation. Et voilà, réfléchissent. Alors, certains disent, écoutez, ce concile, hein, voilà, oui, c'est bien la foi catholique. Mais en même temps, il faut prendre en compte quand même, on a beaucoup parlé de la Vierge. Hein. Il y a eu deux déclarations quand même, hein. Deux grandes déclarations, là, de foi. Il y a eu l'Immaculée Conception et puis l'Assomption. Alors, et je me souviens, là c'était lors d'une assemblée à Lourdes, mais une assemblée ouverte, quoi, hein, c'était Ecclesia. Là c'était d'ailleurs celui qui était président jusqu'à maintenant de la conférence des évêques, hein, là le père de Moulin-Beaufort, qui n'était pas évêque à ce moment-là, qui avait donné une conférence un peu sur le concile, et qui avait dit ceci, au concile, il y a certains évêques qui en ont pleuré du fait qu'il n'y ait pas une constitution particulière, un texte de l'Église sur la Vierge Marie. Mais l'ensemble des évêques qui étaient là, sous l'action de l'Esprit, ont dit, on parlera de la Vierge Marie, mais on en parlera de façon particulière en parlant de l'Église, de l'Église. Et il est admirable ce texte. Et alors, quels sont, moi, les trois, j'allais dire, trois regards sur la Vierge Marie. Je cite, Concile, numéro 55 du chapitre 8. Marie est au premier rang de ces humbles, de ces pauvres du Seigneur qui attendent le salut avec confiance. Avec elle, fille sublime de Sion, après une longue attente de la promesse, les temps s'accomplissent. Marie, la femme de l'attente, celle en qui toute l'attente du peuple de Dieu se dit. Marie connaissait ces textes qui disent la fidélité et la miséricorde de Dieu qui vient combler son peuple. L'attente du jour de Dieu avait façonné en Marie ce cœur disponible pour accueillir quand et comment il viendrait. Nul ne déterminerait en effet ce moment favorable qui n'appartient qu'à Dieu. Premier regard, Marie avec ses humbles et ses pauvres. Deuxième regard, Marie dans la liberté de sa foi et de son obéissance. Marie avec toute sa liberté. Là, celle qui pose des questions, celle qui exprime une attente, mais celle qui est totalement libre pour ne pas ramener tout à elle-même, mais être pleinement là, donnée à son fils, à la personne, à la mission de son fils. Quel visage aussi de Dieu nous donne la Vierge Marie. Notre Dieu n'est ni dominateur ni séducteur. Vous savez combien certaines épreuves que vit l'Église actuellement viennent des emprises. L'emprise par la forme de domination ou l'emprise sous forme de séduction. Marie, elle est là. Rencontre de deux libertés. Jésus, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et Marie, voilà, accueillant la révélation de Dieu avec toute sa liberté. Liberté de notre réponse. Et puis, troisième regard, c'est Marie de tout son être. Marie de tout son être. Elle a accueilli dans son cœur et dans son corps le Verbe de Dieu, et ainsi, elle apporta la vie au monde. À l'annonce de l'ange, elle accueille dans son cœur et dans son corps le Verbe de Dieu et apporta la vie au monde. Voilà, toujours dans ce chapitre 8 de Lumen Gentium. Quand nous disons, par exemple, que nos lèvres, notre âme et toute notre vie proclament ta louange, Seigneur, et puisque tout notre être est un don de ta grâce. Voilà. Marie, elle a toujours proclamé cela. Elle, quand on dit quelquefois, mais elle a été préservée du péché, comme si la liberté, c'était choisir entre le bien et le mal. Vous voyez qu'on aurait besoin, enfin, qu'il ait donné sa vie pour dire, voilà, vous allez discerner entre le bien et le mal. Non, la liberté, c'est vraiment tout un être qui s'ouvre au don de Dieu. Marie, elle est là, avec tout son être de femme aussi. Et vous savez, quelquefois on dit, dans toutes les revendications actuelles, mais vous avez exalté dans le rôle de la Vierge Marie, mais les femmes dans l'Église. Eh bien, il y a quelqu'un qui en a parlé, et quelqu'un qui, justement, est très libre aussi, hein, dans sa réflexion et dans son propos, hein. C'est Anne-Marie Pelletier. Anne-Marie Pelletier. Connaît cette théologienne là, et puis voilà, et elle dit ceci, Marie, oui, on la reconnaît avant tout. Ce livre s'intitule L'Église des femmes et des hommes. Bon, ah bah, tout de suite quand même, c'est sur quoi elle veut mettre l'accent, hein. Mais c'est pas, ben voilà, attendez voir, on a trop donné aux uns, aux autres quand même. Non, mais il y a tout un travail à faire, hein. Et ça, le synode aussi, d'abord, mais pas n'importe comment. C'est pas une affaire d'organisation dans l'Église. Mais je crois aussi, et c'est pas encore suffisamment perçu, je crois dans la vie de l'Église aussi. Ce qu'on a apporté, c'est pas nécessairement bon, les fonctions des uns et des autres. Oui, c'est vrai, il y a des choses à changer. Mais il y a une réflexion profonde à conduire. Et je reviendrai tout à l'heure en parlant justement là de ce qui est essentiel et qui se traduit dans le Magnificat, là, c'est-à-dire, voilà, Marie, là, pleinement femme, Marie qui accueille pleinement, là, ce mystère de Dieu dans sa vie et qui, disciple du Seigneur, nous donne de devenir disciple. Bon, Marie au pied de la croix, je n'insisterai pas beaucoup, parce que, voilà, vous pourriez aussi me dire et me partager tant de choses, vous. Mais je lis simplement. Près de la croix de Jésus, se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite aux disciples, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Marie jusqu'au bout. Marie au pied de la croix. Elle est là avec toute sa foi. Elle est là avec toute son espérance. Nous le disons aussi, là, quand, on entre dans le mystère pascal, combien elle a déjà porté dans son cœur cette espérance. que ça ne se terminerait pas ainsi. Mais voilà, c'était l'ouverture totale à ce que Dieu seul peut accomplir. Et avec le disciple que Jésus aimait, ce disciple qui, Saint Jean, en tout cas, le disciple bien-aimé, c'est pas simplement un préféré de Jésus, non, 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 c'est le type même du disciple. C'est ces disciples que nous sommes, les uns et les autres. Et alors, vous remarquez une chose aussi, c'est que Jésus ne dit pas, bon, aux disciples, voici ta mère, moi, elle va rester toute seule avec ceux qui arrivent, ou moi, je te la confie. Non, il commence par dire d'abord, femme, voici ton fils. Près d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, femme, voici ton fils. Il dit ensuite au disciple, voici ta mère. Voilà. Comment? Ben, le disciple, voilà, lui est donné, voilà, fils, dans le fils de Dieu, quoi. Et puis, voilà, la mère aussi. Parce que, je dis simplement cela, sans aller plus loin, parce que, comme je dis, là, vous l'avez souvent médité. Mais je vais reprendre les choses un peu autrement. En définitive, la croix, c'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur la séparation de l'homme d'avec Dieu. C'est dit dans les premières pages de la Bible. On dit, ils ont été chassés du paradis terrestre. Oui, avec bon, tout ce langage qui est là. C'est vrai, les genres littéraires, ça compte aussi. Ah, les gens sont scandalisés quand ils mettent tout sur le même... Non. Et pourtant, c'est important de commencer par là. Vous voyez, le cardinal Lustiger a toujours bagarré contre ceux qui voulaient que, par exemple, la présentation de la foi ne commence pas par la création, mais par l'Exode. Et il disait, non, non, c'est comme ça dans le livre. Alors que, oui, qu'on puisse se dire, c'est l'Exode. Hein, l'Exode avec... Et toute la révélation, le peuple de Dieu dans le désert, ainsi de sa libération. Il y a la création. Moi, j'ai mieux compris quand j'ai prêché une retraite à des moines. C'était une abbaye qui maintenant n'est plus l'abbaye avec des moines, la Mellerée. Elle n'est plus ancienne, dans la région, là. Et bon, les moines n'étaient plus assez nombreux, mais là, c'était encore, j'étais plus leur évêque, mais il m'avait dit, ah, n'aimerait-on que quand même, là, vous savez, on n'est plus très nombreux, mais vous venez prêcher la retraite, et je l'avais fait. Ah, il y a un moine qui me dit, vous savez, j'ai trouvé un beau texte. Ah bon? Et il me dit, mais je vais vous le passer, je vais vous le lire. Il me dit, ça m'aide à me comprendre autrement le péché originel. Ah bon? Ah, je dis, ben oui, écoutez, c'est vraiment important, c'est là. Et le texte intitulé « Marie, terre d'accueil ». Eh bien, voilà, c'est pas simplement l'homme qui est chassé du paradis terrestre, comme c'est dit. Hein. Mais c'est Dieu qui est chassé du cœur de l'homme. Si l'homme se retrouve, voilà, comme ça, complètement perdu, c'est parce qu'il a chassé Dieu de sa vie, de son cœur. Vous serez égaux de Dieu. Alors, ce mot terre d'accueil, il parle. Quand on voit les migrants aujourd'hui, tout, hein, une terre d'accueil et tout cela. Eh bien, voilà, Dieu qui était comme rejeté. Puis on voit bien aussi le Christ rejeté. Et il sera, c'est vraiment mettre la main sur le Fils de Dieu et faire ce qu'on a fait. Ben, Marie a été comme la terre d'accueil. Dieu n'est pas venu, c'est pas manifesté dans un temple. Il s'est manifesté là, dans l'être d'une femme. Ouais. Marie, terre d'accueil. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoyait son fils né d'une femme. Eh bien voilà le lieu que Dieu trouve. C'est pas le temple imposant bâti par Hérode. C'est pas la maison d'un prêtre ou d'un maître, c'est la maison d'une jeune femme, épouse d'un charpentier. Marie, disait Saint Louis Marie Grignon de Montfort, c'est le paradis de Dieu. Faire de notre cœur une terre d'accueil pour le Seigneur. Marie, Cana, Marie au pied de la croix, là où s'accomplit la démesure du nom de Dieu, la folie même du nom de Dieu, plus extraordinaire que le miracle de Cana. Dieu qui se donne jusqu'au bout. Alors, oui, ces paroles là qu'on trouve en particulier dans l'évangile de Luc, hein, Marie conservait tous ces événements et les méditait dans son cœur. C'est ben, la vie intérieure de Marie. Comment elle s'exprime, cette vie intérieure? Ben, tout d'abord aussi, vous savez, c'est pas terminé, puis dans l'évangile de Luc, il y a la Pentecôte. Marie était là. Il y a un très beau tableau. Si un jour, vous passez rue du Regard, c'est le fondateur des Sulpiciens, Jean-Jacques Ollier, qui l'avait commandé, un des grands prêtres de l'époque, le Brun. Voilà, Marie, alors, chaque jour qu'on célèbre l'Eucharistie, il y a ce grand tableau. On ne sait pas si c'est l'original ou si l'original est à Louvre, lequel est l'original, lequel est la copie, c'est discuté. Mais c'est un tableau saisissant, hein. Pas dans nos représentations, peut-être on est quelquefois, on dit, mais ça paraît... Mais non, mais tout est dit, hein. Marie est là. Et elle est là, avec les apôtres, avec un, bon. Et chaque fois, ah oui, quand on se tourne vers elle, c'est, elle prend pas la place des apôtres, hein. Mais là, l'Église, elle est faite, quoi, de cette diversité, cette complémentarité des vocations. Et la vocation de Marie, là, nous aide à nous comprendre les uns et les autres. Alors. Le Magnificat. Qu'est-ce qu'elle proclame? Je l'ai déjà dit, la fidélité de Dieu. Oui, c'est enfin la fidélité de Dieu. Hein. Elle est fidèle. Ouais. La sainteté de Dieu, qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi, je dis souvent, hein, saint est son nom. Fidélité, sainteté, tendresse de Dieu. Alors quand on parle de la vie intérieure de Marie, c'est vrai, c'est cette vie, voilà. Est totalement présent. On pourrait aussi parler de Joseph, hein, de manière, parce que c'est très important aussi, hein. Et là, c'est très beau aussi le texte que le pape a écrit sur Saint Joseph, le juste, pleinement accordé au dessein de Dieu, le juste, pleinement serviteur. Oui. Eh bien, dans le Magnificat, ce que fait remarquer Anne-Marie Pelletier, c'est que dans le Magnificat, hein, il y a vraiment bah, toute l'intériorité, hein. Marie, là sous l'action de l'esprit, quoi. Elle dit vraiment ce qu'il y a de plus profond. Mais en même temps, c'est pas un univers restreint. Hein. Voilà, c'est tout le monde qui est concerné. Hein. Puis l'effort aussi, j'allais dire, ce témoignage de foi. Hein. Les puissants renversés de leur trône. Hein. Les humbles qui sont élevés, ceux qui ont faim, qui sont rassasiés, c'est pas l'étroitesse d'un cœur. Alors, ben je termine par là, et je dis qu'il y a un beau rapprochement à faire avec un passage de la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous connaissons bien ce passage. Éphésiens, au chapitre 3, connaître l'amour du Christ. Je pense au Magnificat. Quand Paul dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Quel est cet homme intérieur? Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné, fondé dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints, tous les fidèles, ce qu'est la largeur la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. On pourrait méditer sur ces mots. Ça a été fait souvent dans bien des commentaires. Enraciné, fondé dans l'amour, on pourrait dire enraciné, fondé dans l'espérance, mais c'est pas étriqué. Pour comprendre ce qu'est la largeur, l'amplitude, tu es là en ce lieu, mais tu ne peux pas, enfin, ne pas être habité par quelque chose de plus large, de plus grand. Comprendre la largeur. La longueur, mais c'est à longueur de temps, Puis c'est long, Les saisons deviennent de plus en plus longues là, quand il s'agit vraiment de la révélation de Dieu, La largeur, la longueur, la hauteur, la hauteur. C'est pas oublier, mais c'est prendre ce recul nécessaire. Comme disait quelqu'un, plein d'humour. Il faut que je voie les choses de plus près, il faut que je prenne un peu de hauteur, parce que sans quoi je suis complètement myope. Il faut prendre un peu de hauteur pour voir les choses de plus près. Ça nous arrive à tous. Il faut prendre un peu de hauteur par rapport à la réalité. Et puis la profondeur. Alors là je pense à Madeleine Delbrel. Quand elle dit que vraiment notre vie, c'est un chemin de crête. Le chemin de notre vie, c'est un chemin de crête. Elle dit entre deux abîmes. Chemin de crête, deux abîmes. Bon, il y a le vertige, d'un côté, de l'autre. Juste le passage. Et elle dit d'un côté, il y a l'abîme mesurable des refus de Dieu par le monde. C'est un abîme. Ça donne le vertige, ça donne la nausée même, tout le mal, tout ça, qui a. Nous autres, et puis en nous aussi, Mais il est indéfini, mais il n'est pas infini. C'est encore et encore, voilà. Et de l'autre, l'abîme insondable du mystère de Dieu. Alors, quand il s'agit de marcher dans la lumière, c'est toujours pareil, c'est une fois dans un partage, On me parlait, j'avais dit cela, et puis ça m'a bien éclairé. Et une personne dit, mais il faut savoir quand même, c'est important dans la vie chrétienne de savoir où on met le pied. Si je mets le pied, d'accord, c'est vertigineux, mais du côté toujours du mal, à dénoncer, il faut le faire. Mais attention, je peux être pris là aussi de vertige. Et puis ça me paralyse. Avec tous les problèmes qu'il y a, je vois pas bien ce que je pourrais faire. Alors, c'est question de pied, Je tourne vers. Ou alors, si je le tourne, par contre, de l'autre côté, mais il y a de la lumière, là. Il y a une possibilité, mais elle m'est pas donnée immédiatement, Il y a du chemin à faire, et quelqu'un me précède sur ce chemin. Que par l'intercession de la Vierge Marie, il me soit donné de marcher sur ce chemin de Cana à la croix.